Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Thomas Michard, en 2010, vous avez 27 ans. Comment êtes-vous arrivé à visiter un appartement au 26 rue des Montibœuf?
Alors, je suis venu à visiter cet appart assez curieusement. Je ne cherchais pas forcément dans ce coin-là. Je vois cette annonce apparaître. Je vois qu'il est dans les hauteurs et qu'il est lumineux et que les charges sont vraiment très, très faibles.
Ça fait combien de mètres carrés?
Ça faisait pile 37 mètres carrés, je crois. Et j'arrive dans un appartement qui est, contrairement aux autres, qui est vide, absolument vide. Les murs sont tout blancs, c'est assez lumineux. C'était au prix du marché, c'était pas spécialement une bonne affaire, c'était pas spécialement bon marché. Voilà, à Paris, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Alors quand j'arrive, j'ai clairement l'impression que j'ai affaire à un marchand de biens. Je me doute pas de son honnêteté. Il y avait un magnifique poêle très ancien qui était cassé, il manquait des pièces. On m'explique qu'on aurait dû faire la salle de bain là, mais finalement on l'a fait ailleurs. La cuisine est incomplète. Enfin, petit à petit, ça ajoute des petits mystères au fur et à mesure de la visite. Au sol, le parquet est très très jaune. Enfin, il y avait des traces de vie sur ce parquet, il y avait des taches, il y avait des... Voilà, on avait mis juste un vernis au-dessus, en fait. On n'avait pas poncé, on avait mis un vernis pour... comme si on voulait que les taches ressortent. Enfin, c'était... Ça ressemblait à une tache noire avec le parquet qui aurait été même un peu endommagé, peut-être par un micro-incendie. De mémoire, on m'a dit, on ne sait pas trop. Il faisait des formules dans sa chambre, il était peut-être chimiste. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas, moi, je m'étais dit qu'il y avait eu un début d'incendie, qu'il avait fait tomber une bougie, qu'il avait fait... Ouais, je m'étais inventé un truc comme ça et qu'il avait réussi avec un verre d'eau à éteindre, mais le temps d'aller à la cuisine et de revenir, voilà, je m'étais inventé ça. Alors après l'achat, il y a eu une succession de surprises. La cuisine, bon, ça a été vraiment des mois pourtant pour un si petit espace. Enfin, c'était grotesque de rencontrer autant de difficultés, mais ça a été très dur à faire. Ensuite, la salle de bain s'est mise à fuir. Après la salle de bain, ça a été la cuisine qui s'est mise à fuir parce qu'il y a une jonction entre les deux. Il y a eu plein de petites surprises comme ça qui donnaient l'impression qu'on était dans un espèce de bateau fantôme avec plein de... Enfin, on pouvait pas croire que ça soit si compliqué de faire des choses simples dans un petit appart. Ce marchand de biens, de toute évidence, il n'a pas vécu dans cet appart. Il n'a pas pu utiliser la salle de bain parce qu'elle n'était pas fonctionnelle. Et puis, voilà, petit à petit, ce qui est curieux, c'est tous ces signes de mystère qui s'additionnaient, qui s'amoncelaient. Là, il y avait quand même quelque chose qui se créait autour de l'ancien propriétaire. Je me disais, ah, mais quel était ce personnage qui a vécu avant? Et ce qui était quand même assez curieux, c'est que ses voisines qui m'ont parlé de ce propriétaire, ce prédécesseur, l'ont pas vu, en fait, l'ont pas tellement vu. Il a vécu là, il avait une aide-soignante, mais en fait, les voisins et les voisines ne l'ont pas tellement vu. Alors, il y a une voisine qui, un jour, commence à m'en parler avec entrain. Elle avait envie de m'apprendre des choses. Les rumeurs disaient que, en fait, les voisins ou les voisines ne le voyaient jamais, mais croisaient toujours cette aide-soignante. C'est elle qui aurait hérité de l'appartement de façon un petit peu bizarre, parce que au niveau notarial, je ne sais pas si c'est très, très légal. Moi, de ce que je comprends, c'est que des gens se sont empressés de le vendre. Enfin, il y a eu un moment donné, il y a eu une urgence. Ils ont vu cet intermédiaire qui a fait des travaux dans l'appartement et qui a fait des travaux un peu rapidement. Enfin, voilà, un marchand de biens. En fait, les problèmes successifs qui se sont enchaînés dans l'appartement confirmaient le fait qu'il y a eu une vente un peu bizarre, qu'il y avait eu quelque chose comme d'un peu louche autour de cet appartement, et que moi, j'arrivais juste après. Ouais. Je sentais qu'il y avait... Elle voulait me dire que ça avait été assez tragique, que finalement, toutes ces affaires avaient été retrouvées sur le trottoir et sur le palier, qu'ils avaient tout vidé à la va-vite, et qu'ils avaient laissé, quelque part, sa vie par terre à la vue de tous. Quoi. On a vu toutes ces affaires par terre, toute sa vie étalée, des photos, des écrits, des bouquins, des archives. Voilà, c'était sur le trottoir, en bas de l'immeuble. c'était obscène un petit peu, il y avait quelque chose d'obscène. Et c'est là que j'ai appris son nom et je me suis dit, tiens, bon, il a existé, il a un nom, voilà. Et en fait, j'en sais pas plus, c'est-à-dire qu'il y a eu ça a fait gonfler le mystère de savoir qui était là, qui a vécu là, qu'est-ce qu'il faisait, mais j'en ai pas appris davantage. Quand vous m'avez raconté l'histoire, j'ai fait le lien entre ses tâches sur le parquet et le fait qu'il soit graphologue. Je me suis dit, tiens, ne serait-ce pas alors finalement de simples tâches d'encre ? J'ai tout de suite pensé à ça. Enfin, c'est cette image de tâche, en fait, qui m'est revenue. Après, effectivement, il y a vraiment un mystère au niveau de ce personnage. Et plus on en apprend, plus ça conforte dans l'idée que le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que cette histoire de chimie, est-ce qu'on me l'a vraiment racontée, ou est-ce que moi j'invente des trucs par rapport à cette histoire d'incendie, est-ce que c'est pas une simple tache d'encre, voilà, sur des détails comme ça, du coup, avec les petites informations qu'on peut grainer à droite à gauche, on peut broder quelque chose, mais c'est difficile de savoir, de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Ce qui est vrai, ce qui est faux. Thomas Michard, qui ne connaît rien à l'affaire Lucien Léger, est malgré lui embarqué dans les intrigues sombres de Jacques Sals, qui semble lui survivre encore aujourd'hui. Je suis un sinistre enfant du XXe siècle. C'est ainsi que Jacques Sals, sous le nom de Jacques le Gallois, commence son récit, officiel, du retour des camps. Il n'a que 26 ans, en 1948. Traumatisé par la guerre et fâché avec le genre humain, tout avenir, tout espoir lui est alors impossible. Sauf que le martyr ment. Les imposteurs sont nombreux à nous fasciner, comme Franck Abagnale, Jean-Claude Roman ou Hossein Sabzian. Mais ces bâtisseurs de récits ne sont rien sans leurs victimes. Amants, maîtresses, créanciers ou compagnons de route, eux aussi participent à l'imposture, eux aussi sont les acteurs, parfois principaux, de ces comédies souvent grotesques, guidées par l'appel d'une aventure ou d'une histoire singulière. Dans cette seconde partie, nous allons sonder le terreau sur lequel prennent racine ces histoires obscures, ce magnétisme qui actionne la mécanique des événements et nous fait prendre part à ces mises en scène surréalistes. Pour tenter de poser un nouveau regard sur ce très pittoresque Monsieur Sals, je suis parti à la rencontre de ses contemporains. Des compagnons de passage qui ont croisé, selon les jours, un collectionneur d'art désintéressé, un graphologue libidineux ou un psychologue septuagénaire en phase de devenir docteur en philosophie. Parfois, en écoutant ces témoignages, je me suis demandé, parle-t-il vraiment de la même personne ? Tous m'ont répondu avec plaisir et sans résistance. Non pas parce qu'ils avaient des comptes à régler avec Jacques Sals, ni pour faire éclater une vérité nouvelle, mais, il me semble, parce que l'homme leur avait permis de côtoyer le romanesque, l'extraordinaire de façade et un certain sens du spectacle. Jacques Sals, le réel et l'imaginaire. Un documentaire en deux parties de Jérôme Massella. Deuxième partie, le scénariste. Watts, vous accompagnez Philippe Génada dans ses recherches depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous plaît dans les faits divers ?
Le mystère et les forces à l'œuvre chez les uns, chez les autres. Derrière un fait divers et, bon, et un meurtre, on va dire, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a toujours un mobile, parfois il y en a plusieurs. Donc oui, moi ça me passionne.
Et c'est pas un peu vulgaire de s'intéresser à... Parce que le meurtre est réel.
Oui, oui, c'est possible. Mais en fait, je m'en fous. Et d'ailleurs, je me suis souvent dit que j'avais un peu raté ma vocation parce que je suis devenue journaliste culture, plus particulièrement dans le domaine de l'art, et je me suis dit j'aurais dû être fait diversière. Ça aurait été parfait pour moi, j'aurais adoré ça. C'est moins chic que de chroniquer les expositions d'art. Mais c'est tellement plus fascinant parfois. J'aime les gens d'abord, je suis curieuse des gens. Et je suis fascinée par tout ce qui peut se jouer chez quelqu'un, a priori quelqu'un qui peut être banal ou sans histoire, jusqu'à aboutir à la mort de quelqu'un.
Watts, est-ce que vous pensez que Jacques Sals est un bon scénariste ?
Un bon scénariste de sa propre vie, certainement. Puisqu'il a d'ailleurs, j'allais dire, scénarisé sa vie, ou plutôt scénarisé ses vies, parce qu'il en a eu plusieurs, et parfois même en même temps.
Et vous n'avez pas simplement l'impression d'avoir pu tomber sur un imposteur ?
Ah ben c'est un imposteur, Jacques Sals, de toute façon, c'est un imposteur. C'est même, j'allais dire, le premier qualificatif qui lui correspond. Par exemple, il se fait passer pour un déporté résistant, il se fait passer pour un décorateur, ce qu'il n'a jamais été.
Mais est-ce que, justement, au vu de ces mensonges, vous pourriez vous dire que c'est un mythomane aussi dans l'affaire Léger ? Du coup, vous pensez qu'il allait à la carrure pour être un espion, un tel imposteur ?
Oui, moi j'ai jamais dit ou pensé que Jacques Sals avait tué lui-même le petit Lictaron, parce que ça me paraît bien invraisemblable. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait un... Mais c'est une conviction, comme on dit, une intime conviction.
On est naturellement enclin à vouloir comprendre les mystères.
Stéphane Troplin.
Moi, ces histoires de réseau, tout ça, j'ai du mal à y croire. Et en même temps, il y a toujours des éléments qui s'imposent et qui me disent « Mais oui, mais il y a ça. » Et j'essaie de trouver la solution. J'essaie de prendre les éléments, de les imbriquer différemment pour voir si, de cette façon-là, ou de cette façon-ci, ça marche mieux, on comprend mieux. Pour le moment, j'ai pas réussi, mais c'est plus fort que moi.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ce qui vous plaisait pas inconsciemment dans cette histoire, c'est qu'elle était insoluble et donc infinie ?
Ouais, c'est possible que l'affaire parfaitement insoluble, ce soit celle-ci, l'archétype d'une affaire criminelle qui pourrait jamais être résolue, quand bien même tous les témoins seraient présents et existants. C'est possible qu'on soit face à un véritable trou noir criminel, c'est tout à fait envisageable. Par exemple, Sals, je pense que c'est quelqu'un qui... sa démarche scientifique, par exemple, de graphologue, elle s'appuie... elle donne pas lieu à beaucoup de littérature scientifique. Or, c'est étonnant pour quelqu'un qui se présente comme un novateur. Je me suis interrogé sur ses sources de revenus. C'est pas clair. Plusieurs bureaux, plusieurs casquettes aussi, forment des associations, on sait pas trop pourquoi... des cercles de bibliophilie par-ci, une association de défense de mal logés par-là, toutes avec des objets mais sans activité. Mais il ne faut pas gratter grand-chose pour trouver des choses vraiment étonnantes, des faits, des aspects de sa vie qui sont peu compréhensibles. Peu compréhensibles, ça ne veut pas nécessairement dire suspect, mais en tout cas, de quoi vivait-il ? Pourquoi avait-il plusieurs domiciles ? Pourquoi, dans tous les documents qu'on a trouvés de lui, il signe avec des pseudos, jamais de son nom propre ? Il apparaît jamais sous sa véritable identité, en tout cas très rarement. Pourquoi, quand Lucien Léger parle d'un événement, place Maubert, une explosion, une bombe, vraiment, donc quelque chose de violent, a priori, pourquoi, sur une photo, on trouve quelqu'un qui lui ressemble beaucoup ?
Mais peut-être qu'il n'y a rien.
Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien. C'est possible.
Ce serait pas une terrible perte de temps ?
Oh non, il n'y a jamais de perte de temps. Oui, ce serait peut-être, mais je disais, je pense que les vérités sont souvent décevantes. C'est possible.
Quand vous racontez les faits, j'ai l'impression que vous racontez parfois le scénario d'un film noir que vous auriez vu.
Mais les faits, ça relève totalement du film noir. Un mauvais roman d'espionnage, ou mauvais film d'espionnage peut-être, ou bonne comédie d'espionnage, pourquoi pas, sur certains aspects. Pour la partie espionnage, on parle pas du meurtre, bien sûr, mais parce qu'elle est extrêmement riche et propice à dérouler du fil romanesque presque de manière ininterrompue.
Alors, ouais, c'est mon compte rendu. Parce que là, ça va tout me rappeler, tu vois.
Vas-y.
Alors, au début des années 2000, Jacques Sals fait une donation de 300 œuvres au musée de Châteaudun. Et il écrit pour le musée une lettre sur sa femme, Marie-Madeleine, puisqu'il dit que cette collection, c'est elle qui l'a voulu constituer. On saura par la suite que c'est faux, puisque tous les achats d'œuvres sont annotés par Jacques Sals lui-même. Et donc, il écrit un texte sur sa femme Marie-Madeleine, que je ne vais pas lire entièrement, mais dont je peux donner des extraits, qui s'appelle « Marie-Madeleine Fourgon, une femme inspirée ». Donc, il explique qu'elle est née en 1920 à Montluçon, qu'elle a grandi en Haute-Savoie, qu'elle a été orpheline dès l'âge de 15 ans, et que très tôt, elle a manifesté, donc là je lis, un vif intérêt pour les différents domaines de l'art, admirant des œuvres aussi différentes dans le temps et dans l'espace que celles des Mayas, céramiques, ou celles des miniaturistes persans, art safavide. Donc déjà, il nous donne quelques mots savants, mais ça c'est du pur Sals dans le style. Alors il explique qu'en 1940, elle s'engage comme volontaire dans les forces françaises terrestres, qu'elle participe à la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son terme, qu'elle entre en Allemagne avec les armées alliées qui avaient débarqué en Normandie. Ayant le don des langues et parfaitement bilingue en anglais et en italien, elle est nommée secrétaire des juges français au tribunal de Nuremberg et a la responsabilité de l'édition française des actes du procès. Par la suite, elle est devenue cadre dans le service du personnel des forces françaises d'occupation à Baden-Baden. Et c'est là donc qu'il explique qu'elle a rencontré son futur époux, lui-même, Jacques Sals, dont il écrit « psychologue et plus tard docteur en philosophie, ancien déporté résistant ». Voilà. Ensuite, il quelques lignes encore sur Marie-Madeleine, où il explique que grâce à sa vaste culture en matière d'art plastique, de civilisation antique, elle sait prévoir les futurs succès d'œuvres rares méconnues à l'époque. Alors ça, c'est pas rien. Qu'elle est diplômée de l'école du Louvre. Alors ça, je n'ai retrouvé aucune trace d'un passage de Marie-Madeleine Fourgon à l'école du Louvre, et encore moins d'un diplôme. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'elle y était. Alors là, la phrase qui suit est assez amusante et paradoxale. Marie-Madeleine, donc, rassemble, malgré ses moyens financiers fort limités, une appréciable collection très éclectique de petits chefs-d'œuvre devenus des années plus tard des témoins clés de la créativité humaine, désormais engagée dans un destin muséal à Nantes, donc le musée d'Aubray, et à Châteaudun. En ce sens, Marie-Madeleine, malgré sa discrétion naturelle et son manque total de vanité, peut être considérée comme le type même de ces citoyens lambda, entre guillemets, qui s'embrouillent, entretiennent le patrimoine national par l'intermédiaire de leurs legs à des musées méritants. Donc là, on est dans du pur Sals, hein, parce qu'on a trouvé beaucoup d'écrits de Sals, c'est tout à fait son style. Et donc la dernière phrase que j'adore. Marie-Madeleine décédée, regrettée de tous ceux qui l'ont connue, à Paris le 5 mai 2000, elle repose au cimetière du Père-Lachaise après une vie consacrée à l'amour du bien et du beau, avec une majuscule à bien et une majuscule à beau. On retrouvera par la suite des textes de Jacques Sals plus politiques, certains fascistes d'ailleurs, où on voit qu'il affectionne cet emploi de la majuscule sur les adjectifs, comme bien et beau par exemple. Et donc ce texte est signé de Jacques Sals le 23 février 2010.
Quelques mois avant de mourir.
Quelques mois avant de mourir.
Souvent la thérapie. C'est le catalogue du centenaire du musée.
C'est vrai que c'était une belle pièce. Moi, je l'ai faite examiner parce que c'est vraiment la pièce sur laquelle j'ai eu un doute. Tellement je l'ai trouvée impeccable.
Alors, vous pouvez me décrire l'image qu'on a devant les yeux ?
Alors, c'est ce qu'on appelle des bouteilles effigies. Hein. C'est l'appellation généralement utilisée, donc de forme humaine, anthropomorphe. Là, il s'agit d'un personnage féminin et qui a gardé toute sa polychromie. Sans, il n'y avait pas un éclat sur la pièce. Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire.
Et là, on est sur une pièce qui date de quelle période ?
Très certainement, on est sur une pièce qui est plutôt du 9e, 10e.
Et ça doit quand même avoir de la valeur.
Ça a de la valeur, mais peut-être que quand il l'a acheté, ça n'en avait pas beaucoup. Ou peut-être qu'ils se sont fait plaisir, ou que Madame Sals s'est fait plaisir en achetant quelques pièces exceptionnelles. Moi, ça, c'est fort possible quand même. Parce qu'il y avait quand même des pièces relativement secondaires sur les un peu plus d'une centaine de pièces données à Daubray. Là, vous avez une pièce quand même exceptionnelle. Mais il y avait 3-4 pièces exceptionnelles, je dirais, hein, sur une collection de 110 pièces. On ne s'en sort pas de ce personnage, moi qui va rester un mystère hein, quand même. C'est vrai que j'y pense quand même assez souvent, vous voyez, c'est un des rares collectionneurs auxquels je pense parce que j'ai toujours pensé qu'on avait vécu quelque chose d'assez exceptionnel quoi qu'il en soit. Même si c'est totalement fou, c'était quand même exceptionnel. C'est pas un moment noir non plus pour nous d'aller voir ça, même si... La rencontre a été, moi j'ai trouvé dur hein, quand même, faisait penser à un aigle ce regard de cet homme, un regard très très dur, hein, franchement très dur. Donc je suis Marie-Hélène Centreau, j'ai été conservateur au musée d'Aubray, responsable des collections extra-européennes et des collections archéologiques du musée. Alors, le musée d'Aubray est un musée créé par un grand collectionneur nantais, qui était Thomas d'Aubray, qui était un armateur, donc il avait des bateaux qui allaient un peu partout. Et finalement, il en a fait don au département de la Loire-Atlantique. L'essentiel de la motivation pour tous les grands collectionneurs qu'on a connus, en tout cas qui avaient des collections relativement importantes, c'était l'avenir de leur collection une fois mort. Et en fait, ils ont tous dans l'idée, en règle générale, que leur collection étant tellement importante qu'on va faire un musée rien que pour eux.
Donc dans les années 2000, comment se passe l'approche ?
Alors l'approche, elle n'est pas banale, parce que je travaille au musée et ma secrétaire me passe un monsieur qui se présente comme étant un monsieur Daniel Rivet, qui se dit homme de loi et qui se dit gestionnaire des affaires d'un certain monsieur Sals. Et il va vous mettre en concurrence avec une série de musées et suivant la réponse que vous allez me faire, il choisira le musée à qui il donnera sa collection. Moi, c'est la première fois que j'ai été confrontée à ce genre de demande, en plus par un monsieur... que je ne connaissais pas et qui ne me mettait pas en contact avec M. Sals, je me suis dit, j'ai hésité, hein, je dois avouer, je me suis dit, je vais faire quand même une réponse, parce qu'il voulait une réponse écrite et que j'explique pourquoi je trouverais un intérêt à recevoir ces collections. Donc j'ai dit, je vais quand même faire une réponse, parce que c'est après tout, c'est mon métier, de dire que je suis quand même intéressé par des collections. Et donc je fais ma réponse. Puis, on se passait, je crois qu'il s'est passé au moins 5 ou 6 mois. Jusqu'au jour où j'ai de nouveau un appel téléphonique de ce monsieur Daniel Rivet, qui me dit, ben voilà, monsieur Sals vous a retenu. Je lui ai dit, mais je voudrais quand même rencontrer le collectionneur, parce que je voudrais savoir de quoi il s'agit d'abord, et je voudrais rencontrer quand même monsieur Sals. Il me dit, mais c'est prévu. Donc, je vous propose de venir à Paris, au café de la gare Saint-Lazare. Et ensuite, je vous amènerai en voiture voir les collections. Donc, je trouve que c'est quand même bizarre. Et je ne suis pas tranquille, je dois avouer. Et donc, j'ai dit à mon mari, qui était directeur du musée d'Aubray, je lui ai dit, écoute, j'aimerais mieux que tu m'accompagnes, parce que partir seul à Paris... avec des gens que je ne connais pas du tout, partir en voiture, moi j'ai dit, je ne suis pas tranquille, donc nous y allons tous les deux. On arrive donc à ce café où il y avait presque... Alors il avait donné rendez-vous à 14h, je me souviens, Oui, il n'y avait presque personne. Et je vois tout de suite un monsieur âgé, un monsieur plus jeune. Je me dis, c'est eux, effectivement. Donc, monsieur Salles, c'est là, avec monsieur Rivet. Alors, un monsieur Rivet, très affable, très aimable, très gentil. Et, oui, bien sûr, sa personne, un monsieur très bien. Et un monsieur Salles, le visage totalement fermé. Et on a pris un café. Et je crois qu'il a dû dire trois mots.
À partir, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans votre affaire. Alors...
Oui, non, mais c'était surréaliste, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi, c'est quand même la seule fois et l'unique fois où j'ai vécu quand même une histoire pareille. C'est vrai qu'on a connu des collectionneurs un peu fous comme ça, mais comme je vous l'ai dit, c'était des collectionneurs habités par leur collection, donc et des passionnés. Tandis que lui, c'était pas le cas du tout. C'était quelqu'un totalement froid, qui ne disait pas un mot.
On dit toujours, ce n'est pas ma collection, c'est celle de ma femme. Alors,
il répétait ça, c'était la seule phrase qu'il a dû nous dire, en tout cas quand on est arrivé au café de la gare de Saint-Lazare. C'est la seule phrase qu'il nous est dite. Et dans la voiture, il a répété la phrase. Et ensuite, on arrive donc dans un bâtiment très quelconque à Paris, un immeuble très quelconque, et nous voilà qui commençons à monter l'étage. Je me suis dit, il n'arrivera jamais en haut, parce que M. Rivet nous dit, je ne sais plus si c'était au troisième ou quatrième, et je crois bien que c'était le quatrième. Alors, sans ascenseur, hein, l'immeuble. Et il commence à monter, je me dis, il n'arrivera jamais en haut, et puis bon, il est arrivé quand même en haut avec nous. Il ouvre un appartement très sombre, très... alors on n'ouvre pas un volet, hein. Complètement glacé parce que ce n'est pas chauffé. Et un capharnaüm, mais sans nom, sans nom. Moi, je me suis dit, mais on est où? On est vraiment où? Dans ce lieu-là.
Il y avait des traces d'habitation, c'est-à-dire qu'il y avait un lit, il y avait des éléments de cuisine, des choses comme ça, une armoire, mais on voyait que ça n'était pas habité.
Et moi, j'ai eu la sensation, si vous voulez, quand on est rentré là-dedans, je me suis dit, il a entreposé des collections qui étaient ailleurs, parce que c'était beaucoup de cartons, mais des cartons absolument partout, avec des pièces qui sortaient un peu de ces cartons. Et il nous amène dans ce qu'a été la chambre. Et sur le lit, il y avait quelques collections précolombiennes étalées. Alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'il nous a fait faire le tour de l'appartement, quand même, Monsieur Salles. Et il nous a montré, et on voyait que ça, il y tenait tout le double des documents que sa femme avait dactylographiés. C'était les doubles des minutes du procès de Nuremberg, puisqu'elle était sténodactylo et qu'elle avait tapé à la machine tout le procès. Donc ça, on voyait que c'était quelque chose auquel il tenait.
On lui a dit qu'il ne fallait surtout pas perdre ces documents. On ne savait pas quels étaient du tout, s'ils existaient ailleurs ou non. Mais on lui a dit que ça, il fallait absolument que ça aille aux archives nationales. La première des choses. C'était important.
Et il n'a pas répondu. il ne faisait aucun commentaire, si vous voulez, sur rien. Et par contre, une fois qu'il a eu... je lui ai dit, ben écoutez, oui, ces collections m'intéressent. Et là, il m'a dit, ben écoutez, vous venez les chercher le plus vite possible. Alors je lui ai dit, ben écoutez, laissez-moi un peu de temps. Il faut que je prépare des caisses. Il faut que j'évalue quand même ce que ça va représenter. Ah mais c'est pas la peine, les cartons sont faits avec le papier journal. Je dis non, moi je transporte pas des collections dans ces conditions-là. Je les mets en caisse avec mon équipe. Et alors je lui ai dit, ben écoutez, ça va prendre un peu de temps. Il m'a dit, non, je vous donne 15 jours, pas un de plus. Donc j'ai fait des caisses avec mon équipe et on est revenu chercher. C'est là où j'ai vu que tout... Enfin, j'ai vu encore plus, je crois, sa méfiance que la première fois, parce que je suis arrivée en camion, donc au pied de son immeuble. Alors j'ai appelé. Il m'a demandé combien il y avait de personnes, le nom des personnes, qu'est-ce qu'ils avaient, ils montaient avec quoi. Alors je lui ai dit des caisses en bois, et il m'a dit, bien, montez. Et il n'a pas dit, on est arrivé en début d'après-midi de mémoire, mais il n'a pas offert un café ni quoi que ce soit à personne, hein, inutile de vous dire. On sentait qu'il était pressé, il fallait que ça disparaisse et terminé. Donc, si vous voulez, en un rien de temps, on a quitté cet appartement, je ne l'ai jamais revu. Donc moi, je lui ai fait des courriers de remerciement. et le musée, enfin, le musée a fait tous les courriers de remerciement, le conseil général également, jamais il n'a répondu à rien, jamais.
Je pense que c'était rue des Montibœuf.
Oui, c'était rue des Montibœuf, c'est exact. Puis après, ça nous est revenu parce qu'on a regardé la rue quand même quand on est arrivé. Je me souviens de ça. 3 ans après, ce don, donc 2 ans après, parce qu'il fait le don en mars 2001, si je me souviens bien. Et 2 ans après, il va me redonner, et c'est de nouveau M. Rivet qui prend contact, une dizaine de pièces, dont une belle paire de boucles d'oreilles en or. C'était assez intéressant pour ça. C'est une paire de boucles d'oreilles aztèques. C'est vraiment quelque chose de grande qualité. Dans le papier journal, et si vous voulez, il aurait pu jeter du papier journal où il y avait d'autres pièces de ce type sans se rendre compte qu'il y avait des collections dedans. Hein. Et si vous voulez, moi, c'est ce qui m'a le plus fait mal au cœur, en fait, quand j'ai été dans cet appartement, c'est voir ce délaissement sur les collections. Vous voyez, ce non-intérêt. On avait l'impression, mais alors vraiment, qu'il fallait qu'ils s'en débarrassent, mais ça ne l'intéressait pas. Alors c'est étonnant, parce que je me souviens que Châteaudun avait pris contact avec eux, donc eux, ils n'avaient pas du tout de collection précolombienne, dans ce que leur avait donné en tout cas M. Sals, parce que les pièces de Châteaudun, elles sont intéressantes, hein. Il y a de très belles pièces, il y avait des pièces iraniennes aussi, indiennes et iraniennes, qui étaient vraiment des belles pièces. Je ne crois pas qu'il ait donné, très franchement, je ne pense pas qu'il ait donné à d'autres musées. Et je ne sais pas, et j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il m'ait mis en concurrence avec d'autres musées. J'ai beaucoup de doutes. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous n'ayez rien sur Rivet. Moi, c'est un personnage aussi qui m'intrigue.
Alors, Daniel Rivet, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par la conservatrice du musée de Châteaudun, qui m'a donné ses coordonnées, donc son adresse à Puteaux, et son numéro de téléphone. Or, ce 06 était toujours attribué, mais ne répondait jamais. Et puis, on avait fait des recherches avec Philippe, et puis on a trouvé un Daniel Rivet, dont l'âge semblait correspondre, dont la situation semblait correspondre, et qui est mort en 2017, au moment où Philippe Jainala a commencé son enquête sur l'affaire Léger.
Alors, c'est vrai que je me suis débarrassée de tous les ouvrages de Jacques Sals. J'avais aussi un stock de livres de Marie-Thérèse Prénat que j'avais sauvé du pilon. Et j'ai gardé les deux qui me tiennent à cœur, Approche de la personnalité profonde de Marie-Thérèse Prénat. Ça a été mon doudou de graphométrie. Et puis le pronostic de passage à l'acte, parce qu'on parle toujours du pronostic du passage à l'acte et du travail sur les récidivistes, vont-ils récidiver, etc. Alors je vous ai sorti mon certificat d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du test graphométrique d'orientation et de sélection professionnelle, signé par Jacques Sals et Marie-Thérèse Prénat en 86-87. Société française de graphométrie et de graphologie scientifique, 26 rue des Montibœuf, et donc c'était là où Monsieur Jacques Sals donnait quelques cours, parce que c'était vraiment un public extrêmement choisi, de graphométrie.
Catherine Bautiot, nous sommes dans votre cabinet. Est-ce que vous pourriez nous décrire les cadres qui sont devant nous ?
Ce sont des cadres dans lesquels il y a des photos d'écriture agrandies. Moi, j'ai commencé la graphologie en 78. C'était très utilisé, surtout dans le recrutement. En France, à cette époque-là, c'était des chapelles. Hein. C'était des femmes qui avaient des très, très belles situations par ailleurs, ou dont les maris avaient. Alors, dans la graphométrie, il y a bien sûr une dimension scientifique, parce que finalement, on travaille plus sur l'interprétation visuelle de l'écriture, mais sur l'interprétation métrique, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas, par les prises de mesure dans l'écriture. et sur les moyennes, et sur les statistiques, et sur la courbe de Gauss. Et c'est un résultat scientifique, mathématique.
Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez entendu le nom de Jacques Sals?
Je ne l'ai pas entendu, je l'ai vu. Parce que travaillant chez Marie-Thérèse Prénat, dans le 16e, assez souvent, Jacques Sals débarquait chez Marie-Thérèse Prénat. Et c'est comme ça que j'ai connu et côtoyé Jacques Sals. Un monsieur un peu lent, un peu introverti, ouais, qui ne m'est pas forcément très à l'aise. Donc j'avais une impression un peu diffuse, mais bon, je n'ai pas eu d'emblée un élan de sympathie, il faut bien dire. On est dans les années 80, j'ai une trentaine d'années, et lui, il doit avoir une soixantaine d'années, je pense. Alors, on est quand même à une époque où la graphologie et ses développements sont vraiment très présents. On est dans le progrès, il n'y a pas encore vraiment d'informatique. Hein. Il faut dire qu'à ce moment-là, on a créé une société, parce que ça, la graphologie marche très très bien, et on s'installe dans des bureaux dans le 8e arrondissement, donc on a des grands bureaux, ça, tout ça devient très, très installé. Il faut qu'on ait une image de modernité. Et donc, la graphologie, qui a toujours été très contestée, si on trouve une façon de valider la graphologie, par la graphométrie par exemple, on est preneur. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler sur la graphométrie et essayer de voir ses applications. Le test de Jacques Sals était intéressant. Il s'agissait, dans une écriture, de prendre un certain nombre de mesures, par exemple, toute la hauteur des lettres hautes, la longueur des jambages, la largeur du trait, l'écart entre les mots, l'écart entre les lettres. Donc on faisait 50 prises. À la fin, on sortait un profil qui donnait des tendances de la personnalité, ses capacités d'adaptation dans un poste, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec une autre graphologue rue des Montibœuf, dans un petit appartement qui, je dois dire, qui ressemblait vraiment à rien. On savait que ce n'était pas un bureau, ce n'était pas un studio. On travaillait sur un bout de table dans une pièce qui faisait à moitié cuisine. Ah oui, ça n'avait rien à voir avec un centre de formation. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce certificat d'aptitude soit... reconnue par l'académie, quelle qu'elle soit. Moi, je le sentais comme quelqu'un complètement dans sa bulle, incompris certainement, quelqu'un de qui a eu une grande curiosité, parce qu'il était aussi très curieux, alors de mathématiques, de philosophie, je me demande s'il ne peut pas de l'astrologie, je pense qu'il n'avait pas d'enfant. Mais on ne savait pas grand-chose, à la fois un personnage assez mystérieux, très, très introverti, avec un problème de communication. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu inquiétant chez lui, pervers, mais un peu malsain. Comme tous les génies, finalement. Parce que je pense qu'il était génial dans ce qui le passionnait, dans la mathématique, la philosophie, toutes ces choses-là, et qu'à côté de ça, il était profondément déséquilibré. C'était un espèce de gros monsieur un peu libidineux, on va dire, un peu mou, blanc, pas très dynamique et pas très attirant, d'une part. D'autre part, ses recherches, qui quand même étaient très particulières, très spécieuses, ne plaisaient pas à tout le monde. La Société française de graphologie le refusait comme un... il était diabolique, quoi. Enfin, c'était tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait était à repousser. À cette époque-là, il y avait souvent des colloques en graphologie. Il y en a eu un au Palais des Congrès, d'ailleurs. Et lui, il avait fait une intervention où il avait suivi une femme qui se faisait des interventions de chirurgie esthétique, filmées avec de la musique, etc. Et donc, Jacques Sals avait fait la graphométrie de ce personnage très bizarre. Et je pense que les deux personnages étaient faits pour se rencontrer. Et donc, il avait présenté ça au Palais des Congrès à un colloque de graphologie. Et, évidemment, ça avait été le tollé parce que toutes ces dames du 16e arrondissement étaient très, très choquées par ce personnage. On ne peut plus bizarre. Et le sujet encore plus bizarre de son intervention. Donc, c'est dire qu'il n'était pas spécialement apprécié.
C'est toujours un peu louche, les hommes dans les univers extrêmement féminins.
C'est ça. Alors, vous dites ça et ça m'éveille quelque chose. Il avait une part de féminité assez importante aussi, lui, hein, quand même. Oui, c'était pas quelqu'un de très viril. C'est quelqu'un un peu ambigu. On est passé par l'informatique, après ça par Internet. On ne recevait plus de CV manuscrits. J'avais plus du tout de contact avec Jacques Sals, plus du tout. Hein. Mais par contre, on continuait avec mon groupe à travailler sur le test professionnel. Et donc, en fait, il était toujours dans nos esprits. Je ne sais plus comment j'ai appris la mort de Jacques Sals, je ne m'en souviens plus. Mais au nom de tout ce qu'on avait fait avec ce test, oui, c'est vrai que j'ai voulu être là pour ses obsèques, oui. Il y avait peut-être 7-8 personnes, pas plus, hein. Mais de sa famille, non, j'ai vu personne. Enfin, je ne connaissais pas sa famille, on ne connaissait rien de son environnement, en fait. Il y avait au moins 3 aides à domicile. C'est comme ça que j'ai appris que toutes les archives de Jacques Sals avaient été jetées à la benne. Et d'ailleurs, je suis allée à l'enterrement aussi parce que j'espérais récupérer les travaux de Jacques Sals. Et ben, c'était trop tard. C'était parti à la benne, donc on n'a rien pu récupérer. Je pense que c'est lui qui a écrit ça. On l'avait une fois analysé avec notre groupe, qu'on avait fait avec son test, et quelqu'un de, effectivement, à la fois de très énigmatique, très extrémiste dans des tas de choses, avec une sensorialité excessive, avec tendance quand même à sexualiser beaucoup ses interprétations. On en a tiré effectivement. Ça n'a fait que conforter nos incertitudes, si on peut dire, sur Jacques Sals, de travailler sur son écriture.
Est-ce que vous êtes étonné si je vous dis que le plus vieux détenu de France a accusé pendant 40 ans Jacques Sals d'être l'auteur du meurtre pour lequel il était accusé ?
Je me dis que tout est possible avec Jacques Sals. Et que c'est peut-être que cette partie sombre que j'évoquais était reliée à des histoires comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un Jacques Sals avant le décès de sa femme et un Jacques Sals après le décès de sa femme. J'ai jamais vu un objet d'art chez lui. Ce chez lui qui ressemblait à rien. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu clochardisés dans cet endroit où je prenais des cours rue des Montibœufs. Donc j'ai jamais vu un objet d'art, quelque chose de joli, quelque chose d'artistique. Non, jamais.
Est-ce que vous lui connaissiez une activité de psychologue ?
Non. Non, je crois pas.
Novembre 2025. À Monsieur Jean-Jacques Venenburger. Bonjour. Nous ne nous connaissons pas. Je suis Jérôme Massella, documentariste radio. Je réalise un documentaire sur Jacques Sals, graphométricien et compagnon de Lucien Léger, dont il semble que vous avez été le directeur de thèse en 1999. Est-ce bien le cas ? Je suis étonné parce que Jacques Sals est né en 1922 et il aurait rédigé une thèse à l'âge de 77 ans. À bientôt, j'espère. Bien cordialement, Jérôme Massella.
J'avais trouvé.
Oui, facilement. Très facilement.
C'est pas trop compliqué.
Moi, j'ai dirigé, je viens de le revoir, 78 thèses dans ma vie. Mais c'est celle qui m'a le plus marqué quand même. En principe, ça se fait pas. Un universitaire n'encadre pas des thèses de personnes qui n'ont plus d'avenir professionnel. C'est quelqu'un qui en imposait, qui a suffisamment de maturité, suffisamment de personnalité pour essayer de construire son propre univers d'interprétation du monde, que j'ai trouvé jovial, que j'ai trouvé très ouverte, que j'ai trouvé très convaincante, que j'ai trouvé claire, propre, solide. Et donc, il m'a impressionné. Je me souviens qu'il avait une écriture noire assez grande, très facile à lire. Enfin, c'est un peu l'image que j'ai. Il était assez dogmatique. Hein. Il était sûr de lui. Et en même temps, il avait tout pour inspirer confiance, quoi.
Donc, il n'a jamais, vous n'avez jamais eu l'impression d'être éventuellement, vous n'avez jamais eu des doutes quant au fait d'être en face d'un imposteur?
Ah, pas du tout. Si vous me demandez, dans mon âme et conscience, est-ce que il est l'auteur réel de cette thèse? Parce que c'est une question qu'on se pose toujours dans l'université. Mais avec Sals, non. Avec Sals, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est lui-même et qui a défendu jusqu'au bout cette ambition-là de vouloir être, parce que je pense que le titre lui importait, parce que je pense me souvenir qu'il avait rencontré beaucoup de résistance dans l'université. Et donc il a été extrêmement, je me souviens, il était extrêmement heureux quand il est sorti de mon bureau, parce qu'il a su que sa thèse enfin pourrait finir et pourrait être soutenue.
Et qu'est-ce que vous comprenez de son parcours?
Ben, son parcours, il revendiquait effectivement une activité professionnelle de psychologue, mais sans me donner des détails. Non, il avait une haute idée de lui-même. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et il n'est pas vers moi comme un étudiant envers un grand maître. D'une certaine manière, c'est presque lui qui me disait « j'ai quelque chose à vous proposer que moi j'ai trouvé ». Il avait un ego assez puissant quand même. C'est pour ça qu'il devait être très très vexé que d'autres universitaires ne l'apprécient pas. Parce qu'il pensait qu'il le méritait. Voilà. Et il voulait réhabiliter effectivement l'importance de la contradiction comme structure logique de l'ensemble de nos activités cognitives, et il suivait effectivement le chemin de Lupescu, qui était ce philosophe roumain qui, pendant la guerre, était venu à Paris pour faire sa thèse sur justement le principe de contradiction, qui date, je pense, des années 44, fin de la guerre. Et j'ai l'impression que Jacques Sals est un petit peu comme Lupescu lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui a un itinéraire un peu en marge, qui se sent quand même destiné à aller jusqu'au bout de sa conception et à vouloir la faire reconnaître dans la société, d'où ce besoin effectivement de passer une thèse, et puis ensuite effectivement essayer de le dire à sa manière qui n'était pas académique, c'est clair.
Est-ce que vous pouvez nous lire le résumé?
Oui, voilà. Ça, c'est la partie qui fait partie de la quatrième de couverture de la thèse. L'objet de notre thèse est le suivant. Nous nous efforçons de réintégrer dans la philosophie. Vous voyez, réintégrer dans la philosophie. Donc, il sait bien qu'il vient d'ailleurs, c'est-à-dire de la psychologie, ce que nous pensons être le problème central et fondamental de la psychologie. Alors, deux points, celui de la psyché. Nous formulons une hypothèse sur la nature, il présente bien ça comme une thèse, hein, une thèse et une hypothèse, sur la nature et l'origine de la psyché. La nature et l'origine de la psyché, c'est très ambitieux, hein, c'est vraiment un grand. Hein. Alors, pour cela, nous utilisons la logique des antagonismes, alias raison contradictoire de Stéphane Lupescu. Et c'est évidemment le nom de Lupescu qui a déclenché notre entente, parce que il y avait très très peu de travaux sur Lupescu. Moi-même, j'avais travaillé sur Lupescu. Moi-même, j'avais écrit un livre qui s'appelle La raison contradictoire. C'était ma propre thèse. Et j'ai connu Stéphane Loupasco. Alors, avoir dans mon bureau quelqu'un qui est déjà mûr et qui a déjà une expérience et qui a déjà des compétences psychologiques, etc., à me dire qu'il a besoin de Loupasco, vous vous rendez compte, c'était un cadeau du ciel pour moi. Alors, il rajoute évidemment, mais ça c'est tout à fait tiré de Loupasco, ainsi que la physique quantique, en insistant sur les travaux de Roger Penrose. Alors, Roger Penrose, c'est un mathématicien très célèbre, qui est aussi un personnage un peu sulfureux. Finalement, je suis en train d'improviser, mais quand je lis Sals, Loupasco, Penrose, je trouve que c'est trois marginaux. Donc ça, c'est le thème, dit-il, de notre volume 1, intitulé « La psyché, des quantas au cosmos ». Alors ça, déjà... je dois dire qu'il y a des collègues qui, voyant ce sous-titre-là, diraient « c'est pas possible, c'est pas pensable, c'est pas une thèse, enfin c'est farfelu ». Donc vous voyez, il y a des indices quand même de son audace. Hein. En deuxième lieu, donc ils annoncent le deuxième tome, nous nous interrogeons sur la production majeure de la psyché, qu'est le « moi », source de la rationalité. Alors, donc là, on retrouve le psychologue, après avoir jeté les bases épistémologiques générales de son projet. Donc, le moi, source de la rationalité et de la souveraineté, bon, et de la liberté de l'individu. Donc, c'est vraiment, là encore, un grand projet pour fonder ce qu'est la psychologie. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Il essaie de refonder la logique et de refonder la psychologie. C'est pas mal, hein, à cet âge-là. Et nous privilégions ici les travaux de Freud. Alors moi, évidemment, j'étais heureux aussi parce que j'avais commis moi-même un livre sur Freud, donc vous voyez comment la connivence se confirmait. Mélanie Klein, Jung, qui était ma référence préférée, Winnicott, énormément. Donc il me flattait beaucoup, si vous voulez. J'étais vraiment l'homme de la situation. Hein. Il rajoute, et autres auteurs qui ont examiné le problème. C'est le thème du volume 2, intitulé « Prolégomène à une ontologie du moi », le normal et le pathologique. J'allais dire, waouh. C'était vraiment ambitieux au possible. Mais moi, j'aime bien, si vous voulez. Et c'est là que... Alors, je ne sais plus, honnêtement, si c'est juste avant ou juste après la soutenance. Il m'a écrit en me disant qu'il avait énormément apprécié mon accompagnement et que il me proposait d'être... légataire universel. C'était, d'une certaine manière, la récompense qu'il me proposait pour l'avoir accompagné à ce diplôme qui, pour lui, était quand même extrêmement flatteur. Je sentis que, pour son âge et pour sa vie, avoir ce diplôme de docteur en philosophie, c'était vraiment une consécration. Et donc, il voulait effectivement que je sois... destinataire de son héritage, enfin qu'en tout cas que je sois mêlé à la gestion de son héritage, chose évidemment dont j'ai jamais vu trace concrète, matérielle, il ne s'est plus rien passé après.
Lorsque je raconte la raison, le mobile de mon documentaire, l'histoire de Lucien Léger, le fait qu'il ait été personnage secondaire dans l'une des affaires criminelles les plus retentissantes du XXe siècle, qu'est-ce que vous en pensez ?
La question de ces multiples visages psychologiques, c'est peut-être d'abord une interrogation personnelle sur sa propre psyché. Et sa thèse est quand même consacrée à cette question fondamentale, qu'est-ce que le psychisme ? C'est une question philosophique depuis les premiers philosophes, mais c'est une question aussi de Jacques Sals. Et quelle est la réponse quand même ? C'est qu'il y a en nous des antagonismes et des contradictions. Donc ça veut dire qu'intellectuellement, ce qui l'intéresse, ce n'est pas du tout la cohérence, ce n'est pas le principe d'identité, d'où ce que vous venez de me dire qu'il avait plusieurs noms, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est peut-être lui-même, dans sa vie, en train de tester les multiples chambres de sa maison psychologique sur la base d'un principe structurant qui est l'antagonisme, c'est-à-dire l'antinomie, c'est-à-dire des choses qui se nient. Et quand vous passez d'un extrême à l'autre... Je prends l'exemple, quand vous êtes résistant avec vos deux collabos, Ben ça, c'est vraiment une antinomie, c'est vraiment une contradiction. Et vous me dites que peut-être qu'il est passé de l'une à l'autre. Ben ça, c'est vraiment la réalisation du programme. Donc il y a peut-être une très grande cohérence entre son sujet final. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait eu ou qu'il ait pu avoir des tas d'aventures, d'expériences, de relations qui ne sont pas, disons, bien balisées, banalisées. C'est-à-dire que la vie, pour des individus qui ont une forte personnalité, qui ont une grande vitalité, la vie nécessite de temps en temps d'inventer des situations, des conditions, pour que ça devienne vraiment jouable. Parce que la réalité est assez pauvre. Donc, évidemment, ces gens-là, ils sont souvent déroutants parce qu'on finit par se dire « ce n'est pas possible ». Et donc, il doit y avoir du mensonge, donc il doit y avoir de la frime, donc il doit y avoir effectivement de la mythomanie. Et peut-être que parfois, il se laisse aller à des inventions, à des fictions. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, la pathologie devient vraiment folie que lorsque ces excès ne sont plus réversibles. Mais lorsque quelqu'un peut de nouveau faire marche arrière après avoir fait des choses qui sont hors normes, c'est pas grave. Ça, c'est le côté un peu surréaliste. Quand vous modifiez un paramètre de la réalité sans que rien ne bouge, ben vous entrez dans le fantastique. Et progressivement, toutes les conséquences changent. Vous pouvez raconter des histoires avec simplement un élément qui bouge. C'est comme si vous ajoutiez une troisième main à la place de deux mains, quoi. C'est pas spectaculaire, vous ajoutez vos deux mains, il y a des robots à trois mains maintenant. Ben, c'est du fantastique, d'une certaine manière déjà. Mais qui ensuite peut produire des tas de conséquences. Et finalement, c'est pas la peine de dire est-ce qu'il est fou ou pas fou. Mais il a des grains de folie, comme dit le sens commun, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des petites. Il y a des petits moments, des petits endroits où il essaie d'aller au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler le normal. C'est pour ça, d'ailleurs, les scientifiques officiels sont très méfiants, et c'est pour ça, je pense que Sals a été, à un moment donné, boycotté par certains universitaires, parce qu'ils ont vu chez lui un type dangereux, un type qui sort des passages cloutés, et dont on ne peut plus du tout assurer la crédibilité. Alors que moi, ce genre de personnes, j'en ai eu quelques-uns, ça ne me dérange pas. Tant que je sens qu'ils ne sont pas eux-mêmes pris dans leur obsession ou dans leur folie, et qu'ils sont capables de revenir en arrière parce que c'était un jeu. Mais le personnage qui s'est présenté à moi à l'université était tout à fait normal, pas du tout un fou.
C'était Jacques Sals. Le réel et l'imaginaire, deuxième partie, le scénariste. Avec Thomas Michard, Watts, Marie-Hélène et Jacques Centraux, Catherine Bautiot, Jean-Jacques Vunenburger. Jacques Sals, Le réel et l'imaginaire, un documentaire en deux parties de Jérôme Massella. Avec Jean-Louis Ivani, Philippe Génada. Le voleur de crime, l'affaire Léger, par Jean-Louis Ivani et Stéphane Troplin, est édité aux éditions du Ravin Bleu. Au printemps des monstres, de Philippe Génada, est édité aux éditions Mial et Barreau. Merci au héros de cette histoire, Stéphane Troplin.
Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur originelle en voulant donner un sens à cette histoire ?
Mais il y en a un. Il y a toujours un sens, même dans le surréalisme, il y a un sens. Il y a un enchaînement de faits et dans des circonstances précises qui expliquent n'importe quoi.
Vous voulez rajouter quelque chose, vous pensez ?
Non, je pense que vous m'avez permis de me rappeler l'originalité de cette personne qui, d'une certaine manière, maintenant, se voit confirmer dans mes impressions comme étant une personnalité qui a d'autres visages. Je n'ai absolument pas de regrets, même le contraire. Je suis même content d'avoir rencontré Jacques Sals comme doctorant en 1999, l'année où je quittais l'université de Dijon.
Ah oui, là on a trouvé en plus sous la thèse,
est un élément d'éclairage.